Donc la Cour vous écoute et va prendre des notes sur ce que vous dites.
Alors, Monsieur le Président, dans cette affaire, je suis victime et accusé. Je suis victime au moment où je dépose ma citation, et je suis accusé puisqu'on m'accuse d'avoir fait une procédure abusive pour laquelle je suis condamné. Donc j'ai deux positions à expliquer. Je compte utiliser mon droit de plaidoirie orale, je n'ai pas fait de conclusion, et ma plaidoirie est assez longue. Donc si...
Je ne vous laisserai quand même pas parler de quoi vous...
Alors, Monsieur le Président...
Parce que vous avez des notes, vous avez...
Tout à fait.
Vous avez quand même expliqué, donc...
Monsieur le Président, si vous ne... Si... Mais on va essayer d'être très clair. Simplement, ça va prendre un peu de temps.
Alors, et je me réserve de vous dire à un moment donné la prochaine.
Tout à fait, Monsieur le Président. Ce que je vous demanderai simplement, si vous m'arrêtez, c'est de l'expliciter en disant pourquoi, de telle sorte que... Mais je m'arrêterai, ne vous inquiétez pas, automatiquement. Hein. Mais
je... Il ne faut pas qu'on démarre dans une vision que je n'ai absolument aucun parti
pris. Je le crois.
J'ai simplement besoin de vous dire que nous avons l'explication écrite de votre citation directe, nous avons des conclusions, et c'est la même chose d'ailleurs à votre adversaire. Ce qui est important, c'est que l'on ait bien compris votre schéma sur la possibilité de critique de ce qu'a dit, parce que c'est ça la critique de ce qu'a dit le premier juge pour débouter de votre demande de parti pris.
Je suis...
Monsieur
le Président, j'ai bien regardé et je sais que mon droit est de... J'ai la possibilité de critiquer sans aucune possibilité que ça fasse un effet puisque c'est rendu le jugement, mais j'ai le droit de critiquer ce qu'a dit la première instance. Et si vous voulez, il faut que vous compreniez, Monsieur le Président, que c'est 20 ans de ma vie que je viens débattre ici. Je ne peux pas le faire en 30 secondes. Si vous pensez, et j'ai vu que vous êtes extrêmement débordé, vous êtes extrêmement débordé. Si vous pensez qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le temps, et si vous voulez reporter, je n'y vois pas d'inconvénient. Voilà. Donc, je pense que pour bien comprendre cette affaire, il y a une chose que le tribunal, la Cour et les tribunaux en général ne savent pas, c'est qu'est-ce que c'est être une victime du fisc. C'est quelque chose, si vous voulez, on découvre des victimes...
sur la relation du contribuable et du fisc. Donc ce n'est pas un débat. Donc j'arrêterai tout ce qui est débat. La seule chose qui m'intéresse, c'est les argumentations juridiques.
Je pense que le fait... Je pense que...
Je ne suis pas là pour résoudre des problèmes de ressenti.
Mais Monsieur le Président, j'ai bien compris ça, mais je pense que... Je pense, si vous voulez, que vous ne pouvez pas... On ne peut pas, la société ne peut pas évacuer ce qu'est comme souffrance une victime quand cette victime, aujourd'hui en France, est inexistante. On ne l'entend pas, elle ne peut pas se faire entendre, elle n'existe pas. La victime des abus fiscaux n'existe pas, nulle part. Vous pouvez voir effectivement beaucoup de publicité à la télévision, dans les journaux, sur la fraude fiscale, sur l'horreur que sont les fraudeurs fiscaux, sur l'épouvantable gabegie que cela crée à la société, mais la victime de l'abus fiscal, on n'entend jamais parler. Et on ne m'a jamais permis d'en parler. Aujourd'hui, j'en parlerai. Je ne veux pas vous adhérer, Monsieur le Président, vous êtes un homme éminemment sympathique, c'est clair. Hein. Donc, je ne veux pas vous être désagréable, mais il faut que vous me laissiez parler, parce que d'abord, vous allez apprendre des choses que vous ne connaissez pas. Donc, c'est important. Alors, donc, qu'est-ce que c'est une victime fiscale? Alors, quand vous avez un contrôle fiscal et que ce contrôle est abusif, vous avez effectivement des recours. Mais ces recours ont une particularité, c'est qu'ils arrivent après la sanction. C'est-à-dire, contrairement à ce que vous faites constamment au pénal, c'est-à-dire, un enquêteur fait une enquête, l'enquête finie, on l'amène à une audience, vous la jugez, et il y a une sanction. Avec le fisc, c'est pas comme ça. Le fisc fait son enquête, assez secrète, et ensuite, il vous colle l'amende, donc la sanction, et après, vous allez discuter. Et vous allez discuter au tribunal administratif, qui n'est pas le tribunal civil. Dans ces conditions, dans la pratique, ça se résume en quoi? Ça se résume en plusieurs choses importantes. La première, c'est que vous avez une garantie fiscale qui est prise sur tous vos biens. Donc déjà, en ce qui me concerne, le stock de mes sociétés a été paralysé. Net. Bon. Ensuite, vous n'avez plus de trésorerie. Vous n'avez plus de droit de faire de crédit. Moi, ça a été beaucoup plus loin. Les banquiers m'ont mis dehors.
Et le seul problème que vous pouvez évoquer ici, monsieur, c'est qu'est-ce qui a été contraire à un texte de loi ou pas. Que vous estimez que la loi est inique, c'est votre droit de citoyen. Mais ce n'est pas quelque chose que je peux même évoquer et dont je peux même parler, si vous voulez. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une réponse de justice au sens, j'allais dire, d'une justice d'idées, d'une justice de Saint-Louis, on est dans une justice de texte. C'est-à-dire que ce n'est pas la justice absolue que le tribunal attend, c'est uniquement l'application des textes. Et il n'a même pas le droit d'aller au-delà. Le reste, c'est un débat d'idées qui nous est interdit, d'ailleurs, déontologiquement.
Tout à l'heure, j'ai beaucoup souffert quand il a été question d'un motard qui s'est tué. Mon fils s'est tué à 18 ans en moto. Je vous ai vu écouter la souffrance des gens qui se sont exprimés. C'était normal. Elle est inclue dans l'accident. Elle est inclue dans le problème. Alors, la souffrance de la victime du fisc, elle est essentielle. Car si vous la sous-estimez, vous pouvez effectivement regarder en théorie. Il y a la pratique.
Non, mais...
Alors, il y a de la part de la justice un manquement. Alors, ce manquement est-il un déni de justice ou non? Nous y viendrons après. Mais il y a un manquement qui dure depuis 20 ans. Alors, les affaires commencent. Enfin, je vous montrerai ça après. Les affaires commencent tout simplement par un redressement de la succession de ma mère, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, un inspecteur des impôts arrive et me dit, vos terrains, vous les avez tacterés, je crois que c'était 1 million à l'époque, c'était en francs, mais ça vaut beaucoup plus, c'est constructible. Je suis architecte, c'est mon métier, je dis à cet agent, qui est une dame, je dis, madame, non, les terrains ne sont pas constructibles, ils sont entièrement enclavés, ils sont tout mal foutus, non, ils ne sont pas constructibles. Ah mais si, ils sont constructibles. Et elle m'en colle pour plusieurs centaines de milliers d'euros. Bon. J'ai des certificats d'urbanisme qui disent, non, les terrains ne sont pas constructibles. Mais je suis dans une zone constructible. Mais ils ne sont pas constructibles parce qu'ils sont enclavés, ils ne sont pas constructibles. Je me bats comme un beau diable en disant, mais c'est incroyable, enfin quand même, ils ne sont pas construits, c'est une évidence. Et j'ai des services fiscaux qui mentent, du début à la fin, et qui sont systématiquement crus par la justice. Systématiquement. Je perds toutes mes procédures. Je finis par gagner au bout de 20 ans l'année dernière, après un appel, après un pourvoi. Je gagne 20 ans. Pendant ces 20 ans, il s'est passé plein de choses, notamment les autres contrôles fiscaux, qui sont strictement des contrôles destinés à me tuer, et ce qui explique comment ils sont montés. C'est-à-dire que la violence s'installe effectivement entre le fisc et moi. Je suis assez sot pour croire que la justice existe et pour croire que si on se bat, justement, on peut obtenir gain de cause. Je suis assez sot pour croire ça. Je crois dans la justice. Et je vais donc dehors la justice. Et donc on me traite de procédurier. Voilà. Dès que j'arrive et que j'explique, mais voilà ce qui se passe, c'est invraisemblable. Il y a un faux là. Les services fiscaux dessinent un chemin qui n'existe pas pour dire, regardez, c'est desservi, il y a un chemin. En pleine commission. C'est la commission, vous savez, il y a un magistrat, 3 agents du fisc, 3 gens de la société civile, ou 4. Je dis, mais regardez, c'est un faux. Les 4 de la société civile disent, ben oui, souvent il y a un voisin qui dit, oui, effectivement, c'est un faux. C'est un faux, il n'y a pas de chemin. Les 3 agents du fisc disent, il y a un chemin. Le magistrat dit, si l'agent du fisc le dit, il y a un chemin. Ils ont une voix de plus, celle du magistrat. Bien. Donc, si vous voulez, tout ça, je pense que ça ne peut exister que parce qu'on ne connaît pas la souffrance du contrôlé fiscal qui est victime. Et c'est de la même manière, si vous voulez, il y a d'autres exemples dans notre société de choses qui ont été négligées pendant des années parce que la souffrance n'était pas connue. Donc je pense que dans l'affaire qui nous intéresse, on voit arriver 2 agents du fisc et, comme je sais qu'ils viennent pour tricher, je demande à pouvoir enregistrer le débat oral et contradictoire. Comme j'ai déjà été chaïchaudé Carlofroide, je ne suis pas très bon en droit, vous comprenez, je suis architecte, je ne suis pas juriste, alors j'apprends péniblement, petit à petit. Parce qu'il est inutile de venir qu'avec des dossiers comme ça, on ne trouve pas d'avocat. Hein. C'est même pas la peine d'assister. Hein. Parce que l'avocat qui vient enquiquiner la cour... Mais attendez. Un avocat qui vient dire à la cour la vérité, sur ces sujets-là, il a du souci à se faire. Bon, enfin, passons. Donc, ces deux agents des impôts viennent, et je prévois un huissier. Je prévois un huissier pour faire la preuve qu'en aucun cas, je ne porterai atteinte à leur image. Car je ne veux pas porter atteinte à leur image. Donc, j'ai mis une caméra dans le dos de ces deux, de ce monsieur et de cette dame, et moi je suis en face, et de toute façon nous puissions échanger, enregistrer l'enregistrement, mais ils ne sont pas visibles. Et alors, l'huissier met cela, je vous l'ai mis en pièce, je voulais vous le laisser, l'huissier dit ceci, les caméras ne fonctionnaient pas, mais que le client me demandait de constater les conditions dans lesquelles il souhaitait que le contrôle se déroule, notamment à l'aide d'une caméra posée dans le dos, et non devant eux. Ces derniers ont clairement exprimé qu'ils refusaient, au nom de l'administration, que le contrôle se déroule dans ces conditions, et qu'ils pouvaient parler au nom de l'administration centrale. Bien. Donc là, on me refuse le débat oral et contradictoire. On me le refuse. On dit, monsieur, on vous refuse le débat oral et contradictoire. Et on s'en va. Question que j'aurais aimé poser à Mme Bertinchamp, mais on ne la voit jamais, c'est, si vous aviez jugé de ça...
Et...
Bah, évidemment, on n'a pas répondu.
Des propos,
les deux agents sont partis. Ils sont venus, ils sont arrivés, il y avait la caméra derrière, j'ai commencé à parler, ils ont dit, au revoir monsieur, on s'en va. Et après, ils m'ont poursuivi pour opposition à contrôle fiscal. C'est eux qui sont partis parce qu'ils ne voulaient pas être filmés. Alors je dis la question que j'aurais posée à Mme Bertinchamp, elle est extrêmement simple, c'est quelle loi peut-on m'opposer pour m'empêcher, puisque nous sommes ici pour parler de la loi, monsieur le Président. Vous me l'avez bien fait remarquer. Quelle loi peut-on m'opposer pour m'empêcher d'enregistrer le débat oral et contradictoire dans la mesure où je protège effectivement l'image des deux agents? Quelle loi? Je suis chez moi. On va discuter d'un sujet dont je veux qu'il reste une preuve, parce que j'ai l'expérience, je sais l'expérience que, une fois le débat oral et contradictoire passé, la notification ne tiendra plus du tout compte et il n'y aura aucun souvenir. Et quand vous allez devant les magistrats, votre contrat oral est contradictoire, il ne sert absolument à rien. Alors que la charte des contribuables dit qu'il est très, 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 très important. Mais il n'y en a plus aucune trace. Donc, première question que j'aurais donc posée à Mme Bertinchamp, c'est, ben, qu'auriez-vous fait si vous aviez eu à juger, c'est-à-dire si vous n'étiez pas défaussé, qu'auriez-vous mis en argument, en avant comme argument, pour me dire que j'avais tort j'ai perdu mon papier, c'est incroyable. Hein. Ah voilà. Pour me dire que j'avais tort, donc, d'avoir de vous demander de juger de ce débat, qui était essentiel. Après, j'aurais dit à Madame Bertinchamp, deuxième question, quelle est la sanction pour un débat oral et contradictoire refusé? Alors ça, c'est pas compliqué. Je vous ai mis aussi un document que vous allez avoir là. La sanction, c'est la nullité du contrôle. Point. Je ne voyais pas ça. Alors là, c'est systématique. La Cour de cassation est tout à fait régulière à ce sujet. Le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité doit avoir la possibilité d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur sous peine d'irrégularité de la procédure. Point. Voilà. Donc, Mme Bertinchamp refuse... refuse le débat et refuse de juger ce qu'en fait je lui demande de juger qui est essentiel.
C'est ça votre demande.
Alors, là, je fais une erreur, effectivement technique. Je me dis, le déni de justice, c'est une loi, c'est dans le code pénal, donc il y a un déni de justice qui est évident, je vais le mettre en avant. Et là, on me dit, ah, mais non, parce que c'est pas le tout. Le délit de déni de justice... C'est pas vous qui pouvez le mettre en avant. Il faut que le magistrat ait été, que le supérieur, en fait c'est le supérieur hiérarchique du magistrat, qui doit lui dire, je vous exige de juger cela, et si le magistrat ne juge pas, il a un déni de justice. C'est-à-dire qu'il y a une partie, cette loi pourrait être supprimée franchement du code pénal, ça ne sert à rien. Non, c'est sûr. Enfin donc, mais non, on est bien d'accord, mais c'est inutilisable. Donc, si vous voulez... Donc, si vous voulez, dans les droits qui me sont donnés, dans cette procédure orale, j'ai bien compris, je peux à tout moment reprendre l'accusation que je formulais. Et donc aujourd'hui, là, je suis devant vous, et je pense qu'il y a lieu de reprendre cette accusation et de la modifier pour non-assistance à personne en danger. C'est pourquoi, je crois que c'est très important, non-assistance à personne en danger, il faut que vous sachiez quelle est la qualité, quelle est la consistance du danger. Donc c'est pour ça, je crois qu'il faut que vous sachiez qu'est-ce que c'est une victime fiscale. Alors je vais vous montrer quelque chose que je vous ai amené. Oui, voilà. Ça, c'est les ATD. Vous regardez si vous voulez. Alors, ça, ce sont les ATD de simplement 3 ans. Les ATD, les rappels de simplement 3 ans. Parce que les autres, je les avais mis il y a 3-4 ans, j'ai commencé à plus pouvoir y arriver. Voilà. Ça, il y en a toutes les semaines, c'est une lettre commandée. Tous les 15 jours, c'est un ATD. L'ATD, c'est 120 euros pris par le banquier. C'est donc tous les comptes constamment persécutés. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est une vie complètement impossible. On ne peut plus vivre. Nous avons fêté hier avec mon épouse nos 54 ans de mariage. Il y a 20 ans, alors pas il y a 20 ans, parce qu'au début, si vous voulez, bon, au début, c'est arrivé, la pression n'a pas été tout à fait forte immédiatement. Mais après, on a vendu la voiture de ma femme. Après, on a vendu la mienne. Après, j'avais un tableau de Combas, je l'ai vendu. Après, j'avais quelques bouteilles de bon vin, je les ai vendues. Je peux plus travailler. J'ai une retraite de 450 euros par mois. J'ai 76 ans, pardon. Je vais vers mes 77 ans. Donc, notre vie se rétrécit. On rentre de plein pied dans la misère. C'est ça, le contrôle fiscal et les résultats du contrôle fiscal. Alors, quand on me dit, oui, mais attendez, mais vous imaginez, Madame Bertinchamp, attendez, mais vous êtes interrompue, elle est magistrate au tribunal administratif, attendez, on peut pas... Non. Elle a volontairement... C'est pas par accident, c'est pas une faute de service. Elle a volontairement refusé d'étudier ce que je lui demandais, c'est-à-dire, oui ou non, puis-je filmer mon contrôle fiscal, et si les agents sont partis, s'ils sont partis de leur plein gré, alors que je pouvais contrôler le redressement est nul. Voilà ce que je demandais. C'est pas la même chose, parce que j'en ai eu pour 1 million. Et j'ai aujourd'hui tous mes appartements bloqués. Alors vous savez, monsieur le président, qui je suis. J'ai commencé à travailler à 20 ans. À l'époque, on pouvait être agent immobilier, on pouvait être architecte, on pouvait être tout ce qu'on voulait, il n'y avait pas besoin de diplôme. Aujourd'hui, il y a des diplômes, mais ils ne sont pas bien meilleurs qu'avant, même ceux qui exercent, peu importe. Donc, j'ai commencé à travailler à 20 ans, j'ai eu 4 enfants, dont un qui s'est malheureusement tué en moto, j'ai élevé mes enfants, je me suis occupé de ma mère, j'ai rencontré dans la vie la construction qui m'a plu tout de suite, j'ai rapidement eu des clients, notamment Édouard Leclerc, j'ai construit des supermarchés. Jusqu'au jour où, avec Royer, c'est devenu la chose la plus malhonnête que vous avez jamais vue de votre vie. Vous ne pouvez pas imaginer, dans les années 80, ce qu'ont été les pots de vin donnés par les entrepreneurs, par les commerçants, par les grandes surfaces, aux maires et aux partis politiques, enfin surtout aux partis politiques. Tout ça aurait dû être balayé. Bon, ça l'a pas été. La connivence continue. Bon, moi je suis un homme, je n'ai jamais accepté un seul repas d'un entrepreneur. J'ai la fierté d'être intègre. Je suis un homme intègre. J'ai 3 enfants. J'en ai un qui est notaire, l'autre qui est chirurgien et l'autre qui est neuropsychiatre. J'ai mené ma vie. Aujourd'hui, je finis ma vie dans la misère. Dans la misère. Et je retrouve Madame Bertinchamp qui me fait des leçons de droit. Alors, ça, elle peut, évidemment. Moi, j'y connais rien. Elle me fait de son droit. Elle me fait des leçons d'humanité. Ça, c'est inacceptable. Elle me fait des leçons de bienséance, de « je me tiens mal ». Devant les cours, non, je me tiens pas mal. Je vous dis la vérité. Je vous dis ce qui est vrai. Et je vous dis aujourd'hui, je souhaite que ma poursuite qui était faite au nom du... Alors, on peut pas refaire la partie pénale, bien sûr. Mais je vous demande d'avoir présent à l'esprit que ça me coûte 1 million d'euros. Je souhaite que Madame Bertinchamp, qui sera remboursée sans doute par l'État, soit condamnée à 1 million d'euros et au sujet de et sur le thème du refus d'assistance à personne en danger. Nous sommes des vieilles personnes en danger. Nous ne méritons pas ça. Nous avons une vie, je dirais, pas exemplaire, ça serait bête, mais une vie honnête, et nous ne méritons absolument pas ce qui nous arrive. Voilà ce que j'avais à vous dire, Monsieur le Président. Et puis voilà, qu'est-ce que je vous dis.